Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le travail historico-critique, un gros mot pour un certain nombre d'entre nous qui recouvre cependant un travail clé, l'étude de l'écriture à la lumière des sciences modernes. Un travail aujourd'hui devenu courant qui peut continuer à intriguer et même faire peur à certains livres. Le travail historico-critique justement vient d'être publié après Jésus, paru aux éditions Albin Michel. Un livre événement, au dire notamment de mon invité de ce matin, qui retrace l'histoire des débuts du christianisme, l'époque de la construction de cette religion, pourrait-on dire. Un travail passionnant. Après Jésus, le livre événement, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner dans cette lecture, Jean-Michel Maldamé, vous êtes religieux dominicain, prêtre, professeur émérite de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et membre de l'Académie internationale de sciences religieuses. Bonjour.
Bonjour aussi.
Merci de nous avoir alerté sur la publication de ce livre et sur l'intérêt de le faire connaître au grand public. C'est un livre roboratif. Hein, vous dites vous-même que vous avez mis un petit peu de temps à le lire. On l'a sous les yeux. Il doit faire, presque 700, 800 pages ou plus. Bref, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque et peut-être pas à lire comme vous, en tout cas du début à la fin, mais dans lequel on peut picorer. Un livre passionnant, exigeant, qu'on va essayer de parcourir ensemble ce matin. Mais avant de le parcourir, j'ai fait, comme tout bon journaliste, un petit peu une revue de presse, et j'ai vu que c'était, vous n'étiez pas le seul à dire que c'était un livre événement. On peut trouver des titres accrocheurs dans la presse à ce sujet. Pourquoi un livre événement, Jean-Michel Maldamé ?
C'est un livre événement parce que c'est un livre qui pourra rendre de grands services. Voilà. Plusieurs services. Le premier service, c'est de rendre accessible des travaux érudits, qui sont les travaux de style universitaire pour la plupart, et souvent débattus dans des colloques et dans des milieux d'enseignement et de recherche. Donc là, on met à la disposition d'un vaste public les résultats de ces travaux dans différents domaines. Il y a l'histoire, il y a l'exégèse, il y a la théologie, il y a des éléments philosophiques, sociologiques. Ce qui est aussi remarquable, c'est que ce livre fait appel à des spécialistes. Donc on a actuellement la signature parmi les collaborateurs des gens qui, dans l'université française, dans la théologie française, dans le monde chrétien comme dans le monde juif, on parlera longuement de cet aspect qui est une nouveauté, font autorité. Voilà, donc ce sont une encyclopédie, donc une série de petits articles bien classés, mais bref. Alors ça ne remplace pas d'aller lire les œuvres complètes, mais c'est d'excellents résumés. Donc on peut faire confiance sur la qualité scientifique, sur l'information. Alors c'est un événement important, je dirais, pour les chrétiens, parce que ça met à disposition d'un nombre de lecteurs importants, des informations qui sont en général liées au monde universitaire. Donc ça reste un peu dans des milieux clos. Et souvent, quand ça apparaît dans la presse, ça apparaît comme quelque chose qui est en rupture avec ce que dit la catéchèse habituelle. Or là, on voit pour la plupart des chrétiens convaincus, des prêtres, des théologiens, des professeurs de théologie à l'université catholique, qui exposent ces résultats. Donc on voit bien que cette tension qui peut y avoir entre la catéchèse telle qu'elle simplifie les choses et telle qu'elle surtout elle est lisse et un certain nombre d'arêtes, il peut y avoir un rapport qui n'est pas contre la foi, au contraire, c'est l'occasion de voir la foi. Donc l'intérêt de ce livre. Alors moi je pense
ça n'empêche pas donc des titres parfois accrocheurs dans la presse, on y reviendra. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, donc il faut rappeler qu'il y a un livre aussi qui avait été publié un peu du même acabit, Jésus l'encyclopédie, c'était en 2017, donc 3 ans après, donc c'est après Jésus. Je l'ai dit en introduction, ça concerne les premiers temps du christianisme. Vous pouvez rappeler quelle est un peu la période que cela couvre et son propos?
Alors vous avez signalé le livre précédent qui s'appelle Jésus. Donc c'est une étude sur Jésus. Donc l'étude sur Jésus, on commence à Noël et on remonte un peu avant l'âge de ses parents ou grands-parents selon les traditions. Et ensuite on s'arrête à l'an 30, à l'an 40. Voilà. Donc on est dans les 40 premières années de notre ère. Là on va se situer après Jésus. Donc on prend comme point de départ ce qui advient le lendemain de la résurrection, quand Jésus n'est plus présent de la même manière, il est présent mais autrement que quand il était dans sa vie publique, et ses disciples vont aller dans le monde, et donc on va suivre les disciples. Alors, on ne s'arrête pas simplement à la mort des apôtres, hein, donc vers les ans 70-80, ni non plus à la rédaction ultime des évangiles à la fin du 1er siècle. On va un peu plus loin, donc on va vers le milieu du 2e siècle. Donc on a une période dans laquelle on a beaucoup de communautés chrétiennes qui sont dispersées dans le monde, en Orient, en Occident, le livre donne un bon tableau, et ces communautés sont petites, et donc elles sont très typées dans leur origine. Donc une communauté constituée de chrétiens venus du judaïsme est très judaïsante. Par contre, les communautés fondées par Paul, dans lesquelles il y a des chrétiens qui sont d'origine grecque, dans lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup de juifs, ont une autre typologie, d'où une grande diversité de ces petites communautés. Et c'est un des intérêts de ce livre, de les présenter pour elles-mêmes et de montrer comment elles cherchent à s'unir, à se rencontrer dans la même fraternité. Donc on a pratiquement 150 ans d'histoire de la constitution d'un christianisme universel.
Il y a trois parties dans ce livre, le livre 1, des racines et des textes, livre 2, quel héritage, et livre 3, vers l'Église. Le propos, je vais vous laisser peut-être développer un peu plus, dans le premier point, c'est donc de se pencher sur les sources de connaissances historiques des premiers chrétiens, traces archéologiques et autres. Le deuxième, c'est l'enracinement de la séparation entre le christianisme et le judaïsme, et le 3, c'est le développement ou l'invention, alors c'est le sous-titre du livre qui est peut-être un peu accrocheur, l'invention du christianisme. Expliquez-nous peut-être un peu la logique qui préside à ce livre.
Bon, la logique cette encyclopédie, c'est comme une encyclopédie d'être complet, c'est-à-dire d'aborder toutes les questions. Donc alors, soit par des articles qui font 3-4 pages, soit par des petites notes encadrées qui font une demi-page. Le livre est aussi très bien illustré par des cartes, donc c'est très lisible, et le livre est aussi illustré par des œuvres d'art, des tableaux, des mosaïques, d'un travail d'archéologue. Donc il y a un travail d'archéologie intéressant, un travail d'histoire de l'art chrétien, un travail de présentation des textes et des documents. Et l'exégèse, disait mon professeur jadis, repose sur les monuments et sur les documents. Voilà, les monuments, c'est ce que trouve l'archéologie. Donc on trouve une synagogue et on voit cette synagogue. On trouve une première église et on voit donc ce qui est dit, ce qu'on peut tirer. Alors en particulier, il y a un petit passage très intéressant. On voit les églises domestiques. Quand les premières communautés chrétiennes fondées par Paul, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bâtiment public, surtout quand il y aura un temps de persécution. Donc on se réunit dans une maison. Donc on a le plan d'une de ces maisons. Alors c'est une maison de quelqu'un qui est commerçant. Donc il a de l'espace pour ses marchandises, donc il peut faire de la place pour rassembler une petite communauté de 30 ou 50 personnes. Et donc on voit vivre la communauté. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cette encyclopédie, c'est que ça nous fait voir ce qui est énoncé théorique dans un catéchisme. Alors, donc c'est intéressant. Alors donc on a des racines et des textes donnés par l'archéologie. Et effectivement, l'archéologie a fait beaucoup de progrès depuis une trentaine d'années. On a des méthodes nouvelles de datation, d'observation. L'archéologie s'est beaucoup développée dans le monde juif, pour des raisons, disons, de nationalisme. Et donc, on a de plus en plus d'informations dont cette encyclopédie rend compte. Ce qui amène à préciser un certain nombre d'éléments traditionnels de l'enseignement et des textes qu'on lit dans la liturgie.
Est-ce que vous pouvez présenter brièvement les principaux auteurs, en tout cas ceux qui ont coordonné cet ouvrage, pour lever peut-être toute ambiguïté ou crainte? Roselyne Dupont-Roch et Antoine Guggenheim. On voit des textes ou introductions de Christine Pedotti. Alors peut-être que ça va en dissuader certains. Qu'est-ce que vous pourriez dire quant à la crédibilité de ceux qui coordonnent l'enquête?
Je ne connais pas tous les auteurs, n'étant pas spécialiste.
Ceux qui ont coordonné coordonné en tout cas.
Ceux qui ont coordonné, donc vous avez Antoine Guggenheim, qui est président de la faculté Notre-Dame de Paris, dans un cycle doctoral. Alors, vous avez dit des réticences de certains par rapport à un nom de quelqu'un qui est engagé contre le cléricalisme. Guggenheim est un fils spirituel du cardinal Lustiger. Hein. C'est lui qui a été l'artisan de la mise en place des séminaires, des Bernardins. Donc, c'est quelqu'un qui fait autorité dans l'Église au meilleur sens du terme. Donc, voilà. Il y a, comme historien, Marie-Françoise Basselez, qui est aussi une dame qui fait autorité dans le monde de l'histoire et de l'histoire de l'Église, et qui, là aussi, représente, je dirais, et la science et la sagesse qui peut venir dans la tradition chrétienne, nourrie de l'expérience, mais ce qu'elle apporte. C'est une finesse et une délicatesse sur des éléments qui n'apparaissaient pas dans l'enseignement catéchétique traditionnel d'il y a 50 ans. Donc il y a des éléments nouveaux qui apparaissent dans l'ensemble de ces livres. Alors, comme je les ai lus, c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment autorité et à qui on peut faire confiance. Alors ce qu'il y a de nouveau, et ça on en parlera, et je crois que c'est l'élément nouveau, hein, dans ce genre d'encyclopédie. Dans ce genre d'encyclopédie, quand on fait une encyclopédie sur Jésus, on fait parler des chrétiens, ce qui est normal. Là, sur l'origine de la communauté chrétienne, ce sont les chrétiens qui sont la majorité des auteurs. Mais un élément m'est apparu à la lecture très originale, c'est que pour parler du judaïsme, on a demandé à des auteurs juifs, ou qui sont de confession juive et qui, s'ils n'en font pas état, ne l'ont jamais renié dans leur appartenance juive. Ce qui fait qu'on a un élément extrêmement intéressant de dialogue interreligieux qui se passe à l'intérieur du livre, puisque quand on va parler d'un courant juif, mettons les pharisiens, les zélotes ou les sadducéens, on va demander à un auteur historien, exégète, juif, de les présenter. C'est pas tout à fait la même, c'est la même chose sur le fond. Le résultat sont les mêmes, quel que soit l'auteur dans les sciences. Mais il y a la manière de le dire est un peu différente, ce qui fait que ce livre ouvre justement sur une dimension d'accueil et d'ouverture. On s'aperçoit que on n'a pas simplement des idées, mais on a des personnes, des communautés vivantes.
On en parcourra entre autres un chapitre intitulé « Les sources juives contemporaines des débuts du christianisme ». Ça sera dans la deuxième partie. Peut-être avant qu'on fasse une première pause, si on lit la presse, on peut trouver peut-être quelques caricatures sur cette encyclopédie au sous-titre « L'invention du christianisme », peut-être un petit peu provocateur, « Le monde »,« L'église que n'a pas bâti le Christ ». Dans la vie, on ne peut sacraliser aucune des étapes de l'histoire de l'Église. Ça, c'est moins provocateur. C'est donc d'Antoine Guggenheim. En tout cas, ça laisse entendre que à la fois, ce livre vient battre en brèche l'idée que le christianisme serait né de toutes pièces et que Jésus aurait donné un kit, on va dire, tout prêt à une église de prêtres déjà, mais aussi à lire celui qui a fait la préface, Mgr Joseph Doré. Il dit la chose suivante: cet ouvrage ouvre des perspectives jusqu'alors insoupçonnées et met en route des questions sociétales, institutionnelles, doctrinales et spirituelles que la suite de la tradition chrétienne devra affronter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un texte qui secoue quand même, ou une encyclopédie qui peut secouer?
Non. Je crois que ceci n'a rien de nouveau. Hein. Ceci se sait depuis très longtemps. Hein. Tout le monde a bien remarqué que la structure dominante dans notre culture de l'Église catholique, hein, n'est pas exactement dite dans le Nouveau Testament. Donc, quand on lit les Actes des Apôtres, on ne trouve ni les cardinaux, ni toute cette structure. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. La difficulté est justement la transition. Comment on est passé d'une communauté d'apôtres qui était une douzaine, hein, au jour de la Pentecôte, à quelques milliers à Jérusalem, et ensuite quelques dizaines de milliers dans l'ensemble de l'Empire, à une structure où il y a plus d'un milliard de croyants. Il n'y a pas simplement un grandissement de nombre, mais il y a une restructuration. Alors justement, ce que ce livre montre, c'est qu'à partir de points différents et typés, compte tenu de l'origine et de la culture des membres de la communauté, s'est constitué, progressivement une grande église. Alors c'est très intéressant de lire la conclusion qui a été faite par, non pas par un théologien, mais par un maître éminent de la
philosophe,
philosophe et sociologue, historien des religions, qui se situe dans une perspective de distance par rapport à une confession de foi. Et il montre comment l'existence du christianisme est une singularité par rapport à toutes les lois, on dirait, de la sociologie, de l'histoire, et qu'il y a quelque chose qui est tout à fait surprenant. Comment se fait-il que soit née cette espèce de religion mondiale qu'est devenu le christianisme à partir de quelque chose qui échappe à toutes les catégories rationnelles et rationalisantes de la sociologie et de la science. Et donc je trouve que
pourquoi plus que d'autres religions
parce que c'est un fait, hein, on est devant un fait. C'est beaucoup plus parce qu'il y a une beaucoup plus grande diversité du christianisme. Le christianisme n'est pas né d'une conquête. L'islam est né d'une conquête. Donc forcément, les gens vaincus finissent par adopter la religion du vainqueur. L'hindouisme est né aussi de la constitution d'un ensemble culturel qui est lié à un continent. Là, on s'aperçoit quelque chose qui est tout à fait différent, et donc c'est pour ça que la conclusion de Marcel Gauchet répond à toutes les difficultés que vous avez évoquées, d'un point de vue, je dirais, extérieur, en s'étonnant, mais l'étonnement est le début de l'intelligence, en s'étonnant du fait qu'à partir de si peu, Jésus, les 12 apôtres, quelques centaines de gens à Jérusalem au jour de la Pentecôte, 3000... mais soit devenue cette immense religion aussi diverse et aussi complémentaire dans l'unité. Alors je crois que c'est par rapport à ce livre, alors évidemment il y a une différence par rapport au style de la catéchèse. Le style de la catéchèse va répondre à des questions, donc on a besoin de répondre à une question. Pourquoi ceci, pourquoi cela, la réponse ceci, cela, et donc là, on a une réponse tout de suite.
Là c'est un livre qui pose des questions presque.
Tandis que ce livre montre qu'il y a une question. Et il commence par montrer qu'il y a une question, puisque sur n'importe quel sujet, on verra des communautés chrétiennes primitives, diront par exemple, dans l'évangile de Jean, nous n'avons pas exactement la même théologie que dans l'évangile de Matthieu. Voilà, c'est un fait. Mais s'il y a deux évangiles différents, ben c'est que Saint Jean, c'est Saint Jean, et Saint Matthieu, c'est Saint Matthieu. On ne peut pas les mélanger. On peut pas ça ne se mélange pas comme le sucre dans l'eau. Ça fait quelque chose qui est véritablement de l'ordre de la création. Alors, pour moi, en tant que théologien, je dirais que c'est une attestation de l'action du Saint-Esprit. Mais les auteurs de l'encyclopédie ne se situent pas de ce côté-là.
Après Jésus, ce livre événement, donc paru aux éditions Albin Michel, donc coordonné par Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parcourir un passage de cet ouvrage, Les sources juives contemporaines des débuts du christianisme.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Après Jésus, le livre événement, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Après Jésus étant donc un ouvrage paru aux éditions Albin Michel qui fera date à au dire donc de mon invité de ce matin, mais pas que. L'invité de ce matin étant Jean-Michel Maldamé, religieux dominicain, prêtre, professeur émérite de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et entre autres membre de l'Académie internationale des sciences religieuses. On s'est dit donc qu'on allait choisir certains passages parce que évidemment c'est difficile. Enfin, c'est impossible en une heure et même moins de parcourir tout l'ouvrage. Après cette partie introductive, vous avez souhaité donc vous arrêter sur un chapitre, les sources juives contemporaines des débuts du christianisme. Donc ce chapitre se penche donc sur ce que dit d'une certaine manière les juifs des premiers siècles du christianisme. Alors avant toute chose, ou le début de ce propos, ai-je compris, c'est qu'il fallait faire un petit point sur le monde juif de l'époque pour expliciter ce que disent ces sources. C'est un monde juif fort bouleversé par la destruction du Second Temple de Jérusalem dans les années 70.
Oui, le monde juif n'est pas monolithique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier au premier siècle de notre ère, le monde juif va subir une modification extrêmement dramatique qui est la destruction du temple. Ce temple qui avait été restauré par Hérode, qui était le centre du judaïsme. Le judaïsme étant une religion qui n'est pas simplement limitée à un territoire national, mais une religion de diaspora dans l'ensemble des pays méditerranéens et du Moyen-Orient, et tout le monde se tournait vers Jérusalem. Or, la destruction du temple est un événement qui fait que le judaïsme est obligé de se repenser lui-même. Et en même temps, et en parallèle de ces événements dramatiques internes au judaïsme, il y a la naissance du christianisme. Alors là, on n'est pas aux alentours de 70 ou de la guerre qui a amené à la destruction du temple et la deuxième guerre au début du deuxième siècle qui a amené à la dispersion, mais on est dans un phénomène interne puisque Jésus est juif. Jésus est fils de David, il est de la famille du roi David, il est né dans le judaïsme et il n'a marqué aucune rupture avec le judaïsme. Donc il est pleinement juif. Les douze qui sont autour de Jésus et Paul qui vient en plus, donc le nombre des apôtres ne cesse de grandir, sont juifs. De même, nous avons quatre évangiles canoniques. Matthieu est juif. Marc et Jean sont d'origine juive. Il n'y a que Luc qui est d'origine grecque, disciple de saint Paul par ailleurs. Donc on a aussi une littérature dont on peut dire qu'elle fait partie du monde juif. Alors par rapport à ça...
Alors j'ai lu juste la chose suivante, je me permets de citer le texte pour vous faire réagir. Donc après la destruction du second temple de Jérusalem, aussi probablement que certains ne le savent pas, hein, donc c'est donc les troupes, les légions romaines de Titus qui détruisent le temple de Jérusalem et qui saccagent Jérusalem. J'ai lu que c'était 1 million de morts, enfin
un
événement traumatique considérable.
Le chiffre des morts est considérable parce que les Romains, qui sont des êtres cruels quand ils font la guerre, assiégeaient la ville de Jérusalem et ils ont mis le siège quand il y avait une fête. Voilà. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient venus du monde entier pour le grand pèlerinage.
Alors, suite à ces destructions, je me permets juste de citer le texte. Les Zélotes et les Sicaires, donc, qui portaient le flambeau de l'insurrection, étaient décimés. Les Esséniens, peut-être que vous préciserez, éradiqués par le pouvoir romain. Les Sadducéens, alliés politiques de Rome, dont l'idéologie était entièrement dépendante des institutions du temple, ont disparu. Et seul donc le courant pharisien, on va dire, a réussi à opérer une mutation, on va dire, du texte. Et donc, c'était le mouvement juif de l'époque.
Voilà, là, on est renvoyé. Donc, vous dites, la destruction du temple fait que tout ce qui est clergé, liturgique, disparaît. Hein? Donc le judaïsme cesse d'être une religion sacerdotale. Hein? Que reste-t-il? La Bible, le texte. hein, révélé. Donc ça se fait. Donc c'est les pharisiens qui étaient les maîtres dans la lecture du texte, qui sont de fait les héritiers naturels et les seuls héritiers qui sont moins désespérés. Les gens, dans la vie, c'est le temple. Ils ont détruit le temple, ils n'ont plus rien. Les pharisiens s'appuyaient sur la Bible. Alors le temple, ils le respectaient, mais c'était pas le centre. Donc ils peuvent. Et donc effectivement, après la destruction du temple, il y a une grande assemblée de tous les sages juifs près de Jérusalem qui va réorganiser le judaïsme dans sa mouvance pharisienne. Donc aujourd'hui, on peut dire que le judaïsme mondial, hein, c'est un judaïsme qui, pour l'essentiel, est dans la mouvance pharisienne centrée sur la loi. Ce qui correspond évidemment, d'une certaine manière, à ce que font les chrétiens. Hein, parce que les chrétiens, la destruction du temple ne va pas les affecter. Alors, c'est parce que Jésus-Christ étant mort et ressuscité, le véritable temple, c'est le corps du Christ. Donc, et la véritable communauté, c'est la communauté des membres du corps du Christ. Donc cet attachement juif du judaïsme au temple ne concerne pas les chrétiens. Alors, mais par contre, ce qui les intéresse, c'est le texte. D'où le problème qui va se poser entre les juifs et les chrétiens. Comment respecter le texte? Comment l'interpréter? Alors, pour respecter le texte, il n'y a pas de difficulté. Les communautés chrétiennes, quelle que soit leur situation, vont respecter le texte en le recevant comme un texte inspiré par Dieu, racontant l'histoire d'une élection, d'une alliance. Donc, en ce sens,
la Bible hébraïque, en l'occurrence.
Donc, le texte. Ah oui, alors, vous dites la Bible hébraïque, vous apportez une précision qui demande explication. Voilà, le texte biblique, disons. Hein, voilà. Mais effectivement, il se trouve que le texte biblique...
À l'époque, c'était la Bible hébraïque.
À l'époque, l'ancien est écrit en hébreu, mais comme le grec est devenu la langue de la majorité des juifs de la diaspora, du moins dans la partie occidentale méditerranéenne, pas du côté de la Mésopotamie, mais du côté de la Méditerranée, le grec est devenu la langue commune des juifs c'est un peu comme le latin pour les Français aujourd'hui, c'est la langue des anciens. D'où sont hellénisants, d'où une traduction faite par les rabbins dès le 3e siècle avant notre ère, hein, dès 250. Du texte canonique de la Bible en grec, qu'on appelle la Septante. Voilà. Et or, la Septante est reconnue comme étant un texte par les Juifs. Les chrétiens, eux, qui sont pour la plupart, quand les communautés vont se constituer de gens qui ne sont pas juifs d'origine mais de grecs, vont se référer à la Septante, d'où un conflit qui aura lieu à la fin au cours du 1er siècle, un certain nombre de rabbins pharisiens vont dire « le seul texte valable, c'est le texte hébreu hein ». Donc la lecture et la traduction de la Septante qui est plus spiritualisante, nous la tenons à distance. D'où, actuellement, deux rapports différents au texte. Les chrétiens disant « nous avons un texte grec » et « le texte grec vaut ». Hein, le texte hébreu aussi, mais comme on lit le grec, on le lit en grec. Les autres diront le texte grec ne vaut pas, seul le texte hébreu fait autorité.
Alors Jean-Michel Maldam, et comme je vois le temps qui passe, à propos donc des sources juives contemporaines des débuts du christianisme, dans ce chapitre, il est dit donc qu'il y a une mention qui est faite, qu'on peut trouver dans toutes ces sources juives, qui est l'expression donc « mine » au pluriel « minime », et qui veut dire donc « hérétique ». Qui serait donc dans les textes et qui laisse entendre que les juifs évidemment savaient qu'il y avait des chrétiens, mais que ces mentions en fait sont pas si fréquentes que ça dans toutes ces sources.
Alors, là on aborde derrière une question extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. C'est que le judaïsme va se restructurer donc à la protection du temple hein, autour de la Torah hein, en disant c'est le texte hébreu qui fait autorité. Et à ce moment-là, les juifs devenus chrétiens n'avaient pas cessé d'être juifs. Hein? Donc les actes des apôtres disent les premiers chrétiens de Jérusalem allaient au temple, hein? Parce que c'était leur lieu de prière. D'où une espèce d'appartenance de certains totalement au judaïsme et totalement au christianisme. Et c'est la raison pour laquelle... l'assemblée qui se rassemble, hein, donc après 70, va imposer une prière pharisienne, hein, telle que les chrétiens ne peuvent plus la prononcer. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a une espèce de rupture à ce moment-là de l'Assemblée qui restructure le judaïsme à l'égard des juifs devenus chrétiens, considérant qu'ils sont 100% juifs et 100% chrétiens.
Alors, c'est eux qu'on appelle,
il faut choisir. Il faut choisir. Et donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus membre à part entière de la communauté, mais comme vous êtes d'origine juive, ben vous êtes toujours juif, mais vous êtes dans les marges. Hein, dans les marges, vous êtes un marginal.
Et donc, on les qualifie d'hérétiques, c'est ça ? De mine.
Le mot hérétique n'a pas véritablement de sens à ce moment-là. Il est consacré de marginal, disons. Il faudrait dire par marginal, vous êtes dans les marges. Ce qui va avoir une conséquence extrêmement importante, c'est que quand la communauté chrétienne va se développer beaucoup dans le monde grec ou dans le monde, plus tard, le monde syriaque, sans référence à l'hébreu, ces petites communautés judéo-chrétiennes, juifs devenus chrétiens, vont occuper une place de plus en plus discrète dans l'ensemble des communautés chrétiennes. Mais alors, c'est un phénomène qui est difficile à analyser parce que y a l'appartenance explicite à une assemblée et aussi il y a une influence culturelle. C'est que les catégories de pensée du judaïsme n'ont pas disparu et donc beaucoup de nouveaux chrétiens de langue grecque, de culture grecque, vont adopter des catégories de pensée qui sont celles du judaïsme plutôt que celles de la philosophie gréco-grec.
Alors, ce qu'on note, donc, en tout cas ce que j'ai lu donc, dans ce chapitre, les sources juives contemporaines des débuts du christianisme, c'est, semble-t-il, au dire donc, de l'auteur, que le christianisme, c'est sa conclusion, ne semble pas vraiment interpeller le judaïsme rabbinique alors en pleine formation, de plus en plus solide et stable. Il se montre bien plus, donc, ce judaïsme rabbinique et donc toutes ses sources, préoccupé par les défis démographiques, politiques, économiques, éducatifs et religieux d'une ampleur autrement plus considérable et qui menace son existence. Donc, dans le fond, les chrétiens ne sont pas si souvent cités que ça dans ces sources juives des premiers siècles. Ils ne semblent pas être la première préoccupation du monde juif de l'époque.
On peut dire comme ça. C'était pour des raisons de développement du christianisme. L'encyclopédie le montre. Le christianisme va se développer, et ça à partir de saint Paul, va se développer dans des communautés grecques qui ne doivent pas à une ascendance juive. Voilà. Alors, c'est le génie de saint Paul. Le génie de saint Paul, c'est d'avoir pu montrer et mettre en pratique, et ce qui a été ratifié par, à Jérusalem, ensuite par l'ensemble des apôtres et par Jacques, le frère du Seigneur, pour dire qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de devenir juif pour devenir chrétien. Il n'y a pas de préalable. Donc on peut très bien, sur des signes comme la circoncision, mais pas que, sur des signes de la pratique de la loi concernant le cachère, etc., on n'est pas du tout tenu à ces pratiques, même si on lit le texte biblique comme inspiré, si on lit les prophètes, si on prie avec les psaumes, si on lit les sages, et si on structure la liturgie en reprenant des éléments juifs. On n'est pas obligé d'être juif. Mais alors, pour des raisons démographiques, les communautés chrétiennes se développent dans le monde grec, disons grec, parlant grec, hein, dans le monde qui n'a pas de source juive. Et donc le judaïsme, quand les générations passent à la deuxième, troisième génération, c'est la religion des grands-oncles, voilà, des grands-oncles, des arrière-grands-oncles ou des arrière-grands-pères. On les respecte, mais on n'a pas affaire avec eux.
Alors il y a des encadrés aussi tout au long de cet ouvrage avec des questions très simples. C'est peut-être là, en tout cas, la manière dont on peut entrer dans cette encyclopédie la plus didactique. Il y en a un, entre autres, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête alors rapidement. C'est « Quelle langue parlent les premiers chrétiens ?» Il nous est dit quelles étaient les langues que parlait Jésus, quelles langues parlaient les quatre évangélistes, et puis, petit à petit, la langue qui s'est imposée chez les chrétiens. Alors dites-nous.
Les premiers chrétiens, c'était les gens du pays où était Jésus. Donc il parlait manifestement l'araméen, qui était la langue populaire de l'époque. L'araméen qui n'est pas un dialecte de sous-développé. Hein, l'araméen est une véritable langue. Enfin, on fait souvent une erreur en disant il y a l'hébreu, c'est la langue noble, et puis il y a l'araméen, une espèce de dialecte, un peu comme on a l'argot ou le langage parlé par les immigrés par rapport au langage académique des gens qui ont passé leur baccalauréat brillamment. Non, l'araméen est une véritable langue. Et il y a plusieurs types d'araméens. Donc c'est proche de l'hébreu. Donc quelqu'un qui connaît bien l'araméen peut connaître un peu l'hébreu comme un Italien accède au latin ou un Français qui est cultivé accède au latin. On peut le faire.
Donc ça, c'est la langue des premiers chrétiens.
Donc c'est la langue des communautés qui sont du peuple à qui Jésus parle. Donc Jésus parlait araméen. Jésus connaissait l'hébreu manifestement puisqu'il lit la Bible. Donc l'hébreu est une langue plus érudite, plus savante, mais c'est une langue morte qui est figée. Et moi, je pense,
hein, ça, il avait des notions de grec
que le grec étant la langue de communication dans l'Empire, moi je pense que Jésus connaissait le grec, même s'il ne s'en servait pas, puisqu'il parlait essentiellement au peuple de son pays. Moi je pense que Jésus parlait le grec, ce qui explique certains éléments de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, il y a des consonance avec la culture grecque. Et pour ma part, mais c'est une idée personnelle, donc je ne dis pas que...
Et les évangiles ont été
écrits? Les évangiles ont été écrits en grec.
Les
quatre évangiles ont été écrits en grec. Ce qui, dans des contextes différents, l'évangile de Matthieu, c'est une communauté où il y a une participation juive importante. Hein. Par contre, l'évangile de Luc, c'est du grec écrit par un helléniste raffiné. Et l'évangile de Jean, aussi, c'est un grec, je dirais, érudit. Voilà. Donc, alors, la langue des premiers chrétiens, les chrétiens juifs parlaient l'hébreu ou l'araméen, de même qu'ensuite ils parleront syriaque, et qu'aujourd'hui, les chrétiens du Moyen-Orient, qui sont si persécutés et si opprimés, parlent une langue qui provient de l'araméen, qui est une langue sémitique. Les Grecs parlent grec, et ensuite à Rome, à partir de... Le livre le mentionne rapidement, parce qu'on arrive au IIe siècle. À partir du IIe siècle, on va commencer à parler latin dans les communautés chrétiennes à Rome et à Carthage.
Après Jésus, donc paru aux éditions Albin Michel, c'est donc le livre que l'on parcourt aujourd'hui. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parcourir un autre de ces chapitres qui parle de l'apôtre Paul, le persécuteur retourné.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Après Jésus, le livre événement, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin et son thème évidemment. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Jean-Michel Maldamé qui est religieux dominicain, prêtre et professeur émérite de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et membre de l'Académie internationale de sciences religieuses. On va parcourir donc un autre passage. On est dans la deuxième grande partie du livre après des racines et des textes. Quel héritage ? Et on se penche sur la figure de l'apôtre Paul dans un chapitre intitulé « Le persécuteur retourné ». Le chapitre commence de la manière suivante. Se pose une question. D'abord, que sait-on de la vie passée de Paul ? Alors, qu'en sait-on ? Que nous dit l'auteur de cet article, Jean-Michel Maldamé ?
Eh bien, la vie de Paul est tout à fait exemplaire. Parce que dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul occupent une place extrêmement importante. Dans le récit que fait Saint-Luc des Actes des Apôtres, le personnage de Paul occupe une part très importante, plus de la moitié. Voilà. Donc Paul est un élément fondateur du christianisme, et on ne peut pas imaginer un christianisme qui n'ait pas été marqué par Paul. Je disais tout à l'heure que l'originalité de saint Paul était d'avoir réalisé, pas simplement affirmé, mais réalisé et fait reconnaître que l'on pouvait devenir chrétien sans la pratique fidèle de la Torah, de la Loi juive concernant les pratiques rituelles, les pratiques alimentaires.
Mais avant qu'on parle de ça, est-ce que vous pouvez nous dire qui il était ? Donc, ascendance juive prestigieuse, éducation helléniste.
Saint Paul est très accusé par certains. Qui disent il dépasse ce que a fait Jésus, donc il est obligé de se justifier, et donc il se justifie, il se présente lui-même. Donc saint Paul fait partie des Juifs de la diaspora.
Paul de Tarse.
Paul est à Tarse, qui se trouve dans l'actuelle Turquie, où il y avait une importante communauté juive, essentiellement commerçante. Voilà. Donc c'est une ville qui avait à l'époque une certaine réputation de culture. C'est un,
donc il est d'une
homme extrêmement brillant.
Ascendance juive prestigieuse, c'est ça ? Tribu, oui. De Benjamin ?
Oui, oui. Oui. Toutes les tribus sont prestigieuses. Donc, c'est ce garçon, sans doute extrêmement brillant, vient à Jérusalem pour faire des études rabbiniques, si j'ose dire. Alors là, on a un système qui se comprend, c'est que pour former le judaïsme, l'élite du judaïsme, les différentes communautés de diaspora envoient leurs meilleurs enfants à Jérusalem, de même qu'on envoie à un séminaire romain les gens qui seront les futurs évêques, et qu'on envoie à l'école normale supérieure les futurs professeurs de l'université, et pas simplement de lycée, comme c'était à l'origine. Voilà, donc on a ce phénomène d'une élite. C'est là qu'il va être formé par une des grandes figures du judaïsme de l'époque, Gamaliel, à qui il se réfère et qu'il respecte. Voilà. Donc c'est un juif, en quelque sorte, d'élite, appelé à avoir des responsabilités intellectuelles.
Un homme de triple culture aussi, ah
oui,
ça
oui,
veut
alors,
dire quoi ?
Il est citoyen romain, donc c'est un passeport qui va lui permettre de circuler dans l'Empire pour fonder les églises, donc romanisé d'une certaine manière, officiellement, il a le passeport. Donc il peut se présenter comme... Donc c'est la raison, il sera en procès à Rome devant l'empereur, parce qu'il fait appel à l'empereur. Ensuite, il est de culture grecque, il a une très bonne connaissance du grec, une très bonne connaissance de la philosophie grecque. Dans les discours de Paul, on reconnaît une culture grecque marquée par la philosophie dominante du temps, donc des éléments stoïciens en particulier, qui font partie de la culture. Et c'est un rabbin, si j'ose dire, érudit, qui connaît parfaitement les textes bibliques, parfaitement la tradition. Donc on a un grand génie au plan intellectuel et un caractère affirmé. Alors il est, dans sa première période, nommé en quelque sorte, entre guillemets, commissaire du peuple pour aller réprimer ces juifs dissidents qui méprisent le temple. Donc il fait partie du commissaire du peuple. Voilà. Donc il arrête les gens. Et c'est là qu'il rencontre le Christ sur le chemin de Damas, et qu'il y a une espèce de renversement par rapport à cette politique.
Alors, venons-y justement. Donc, l'auteur donc, de cet ouvrage, je vous laisserai peut-être donner son nom, ce que je n'avais pas noté. Donc, dans ce chapitre, le persécuteur retourné s'arrête. Alors là, ça m'a un peu surpris parce qu'on a l'impression que c'est une historienne qui s'interroge en fait sur une conversion. L'objet du retournement est clair, c'est la prise de conscience que Dieu est du côté des hérétiques qu'il persécute. Que nous dit ce chapitre là-dessus? C'est quoi? C'est un décryptage? Enfin, c'est juste
oui,
c'est une historienne qui s'interroge sur une conversion.
Oui, c'est le problème de la conversion. Hein. Le problème de la conversion, c'est au sens strict, on change de direction. Voilà. Alors, sur le point, on parle de conversion de saint Paul. Alors moi, je dis mon point de vue à moi. Hein. Je pense que le mot conversion n'est pas tout à fait exact si on pense que saint Paul a dit que tout le judaïsme et tout ce qu'il a fait avant ne valait plus rien. Non, saint Paul ne cesse pas d'être juif en devenant chrétien, mais il devient juif en comprenant que le judaïsme qui a été matriciel pour lui est orienté vers un accomplissement et que c'est Jésus qui a fait cet accomplissement. Et donc, quand Paul se convertit, il ne renie pas son judaïsme, hein, donc il ne nie pas son judaïsme, il dit « le judaïsme dans lequel j'ai été élevé trouve son accomplissement dans le fait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ ». Et c'est pourquoi, quand, dans le récit qu'il fait de sa conversion, il dit « le Seigneur m'apparaît dans la lumière, dans l'éblouissement », bien sûr, c'est un éblouissement, et Jésus lui parle et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alors, connaissait-il Jésus? Bien sûr, il connaissait Jésus. Il avait passé son temps en bon inspecteur de voir quels étaient les dossiers des gens qu'il accusait, qu'il mettait en prison, qu'il mettait en procès. Et donc, il savait des tas de choses sur Jésus, sur ce qu'il avait fait, sur ce que Jésus avait dit. Et brusquement, c'est dans l'instant qu'il comprend que ce que Jésus a dit est vrai parce que c'est justement ce que le judaïsme annonçait et espérait. Alors je pense que c'est ce renversement-là qui fait que le persécuteur devient ensuite un apôtre.
Alors il y a un autre passage justement dans ce chapitre qui dit la chose suivante. Il y a dans le judaïsme une tension entre le Dieu créateur universel et le statut à part d'Israël par élection. Vous pouvez expliciter cette phrase, alors, et puis du coup, pourquoi on parle d'accomplissement? Il y a dans le judaïsme une tension entre le Dieu créateur universel et le statut à part d'Israël par élection, ça veut dire quoi?
Cette phrase est intéressante. C'est que le judaïsme ne va pas se présenter comme la religion des Juifs. Parce que chaque peuple, on trouve ça aujourd'hui. Vous êtes de telle tribu, vous avez tel dieu. Vous êtes de tel pays, vous avez tel dieu. Chacun son dieu. Je crois que
c'est pas comme ça qu'à l'époque les juifs se pensaient.
Non, alors chaque région de l'empire a son panthéon. Hein. Les juifs disent non, nous il y a six dieux et Dieu, il est unique, il est Dieu de tous, le créateur de l'univers. Donc c'est un dieu universel. Hein. Et donc si on s'affirme comme fidèle et croyant de ce Dieu, ça n'est pas pour se séparer des autres, mais pour reconnaître que c'est son chemin à soi que l'on suit, mais que ce chemin à soi, il est en convergence, en harmonie avec d'autres chemins. Et donc, ce que fait saint Paul quand il se convertit, on peut aller au Dieu créateur de l'univers, du ciel, de la terre, qui fait alliance avec toute l'humanité pour sauver toute l'humanité, c'est ce que dit les textes de l'Ancien Testament, par le chemin de l'observance juive, mais en même temps, on peut y arriver par un autre chemin qui a été ouvert par Jésus, donnant sa vie pour le salut du monde. D'ailleurs, pour revenir à saint Paul, quand il se trouve dans les milieux juifs, continue de pratiquer des observances juives. Quand saint Paul veut aller au temple, il fait tout le rituel de purification qui est demandé pour un bon juif. Saint Paul n'a jamais nié son judaïsme, il a simplement dit « il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sauvé par le Christ et recevoir l'Esprit Saint ».
J'avais une dernière question qui va vous paraître un petit peu triviale à propos de Paul aussi. Alors là, j'extrapole un peu par rapport au livre. J'ai pas vu d'explicitation. Il était son métier, c'était de fabriquer des tentes.
Oui.
Ça veut dire quoi les pas fabriquer des tentes?
C'est le statut des pharisiens dans la rigueur pharisienne. On ne vit pas de la parole de Dieu. On n'est pas
À charge de la communauté, c'est ça ?
On n'est pas... On peut être professeur, mais on ne peut pas faire métier de la parole de Dieu. Donc il faut que le maître, il ait une activité professionnelle qui lui permette de gagner sa vie, et ce qui fait que ce qu'il dit, la parole de Dieu, est de l'ordre de la gratuité. On a ça dans la tradition monastique. Mora et labora, dit la tradition monastique. Le moine travaille, hein, et ensuite, de son travail, il vit, et ensuite, il gagne du temps pour être au contact avec... Donc, Saint Paul l'a pratiqué, il était...
Fabricant de tente, c'était quoi, juste à l'époque ?
On faisait les tapis. C'est un art de faire des tapis. Hein. Alors, c'est plus noble que de dire fabricant de tente.
Ah, il faisait des tapis, en fait, c'est ça ?
Je pense que c'est ça qu'il faisait.
Hein. Et c'était un métier très modeste.
C'était un métier qui rapportait. C'est un métier intelligent, c'est une œuvre d'art, un tapis.
Donc, c'était aussi un bon commerçant, on peut imaginer.
C'était aussi un bon artisan.
Voilà, tout ce qu'on peut découvrir, ou presque, bien d'autres choses à découvrir. Cet ouvrage, donc c'est une encyclopédie, semble-t-il, qui fera date, à voir dans sa bibliothèque et à parcourir, on va dire, au goutte à goutte, et puis suivre l'une ou l'autre conférence pour mettre en perspective tous ses propos. Cet ouvrage, c'est donc « Après Jésus », paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel Maldamé. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce soir cette émission à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page à Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.